France Culture.
Il est temps d'écouter un poème de Anne Osmond. Ce poème est intitulé « Novembre ». Il a paru dans le recueil Nocturne en 1907. Anne Osmond a été une des grandes figures à la fois de la poésie mais aussi des cercles occultes à Paris au début du XXe siècle. Et je vous laisse écouter ce texte. Ce poème vous est lu par
Aurélien Chaussade. Le ciel meurt, vert et rose, en l'eau qui le reflète. Comme une vapeur chaude autour d'un encensoir, dans la suavité douloureuse du soir, sous les bois dépouillés dort l'ombre violette. L'automne saigne à flots d'or rose, et lentement, de ses fluides mains qu'une langueur décroise, effeuille sur l'étang ses joyaux de turquoise. Voici la nuit d'adieu et le dernier amant. Une à une, comme des pleurs, les feuilles noires sur le lac enflammé tracent de sombres moires. L'automne pleure au bras du silence pâmé. L'heure invisible épand la cendre de son urne. Seul un signe éclatant dans le soir mi-fermé d'un sillage d'argent déchire l'eau nocturne.
C'est un poème de nuit éternelle et c'est presque un poème liquide où il est question d'eau, de suavité, de flot, de fluide, d'étang, des pleurs évidemment et sur le lac enflammé. Je trouve que ce poème coule, je trouve qu'il raconte ce que c'est à la fois d'écrire, c'est-à-dire de laisser couler l'encre et l'inspiration et ses émotions. Il raconte aussi ce que c'est que de se laisser soi-même couler dans un poème, c'est-à-dire en tant qu'auditeur, auditrice ou lecteur-lectrice, d'accepter de se laisser porter par un poème comme on se laisse porter par l'eau quand on fait la planche, par exemple, ou quand on se laisse porter par l'eau d'une rivière ou les flots d'une rivière. Et je m'interroge toujours sur comment faire ça, comment écrire ça, comment créer ce sentiment qu'on est porté par les mots de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qui est mort, qui n'a pas eu la même vie que nous, qui ne nous comprend pas, en qui pourtant on a tout à fait confiance. Anne Osmond, elle est poétesse, mais elle est d'abord journaliste. Et puis elle publie des recueils qui sont d'ailleurs primés à son époque. Et elle devient une sorte de, comment dire, de femme connue pour sa présence dans les cercles occultes, qui sont très à la mode à cette période-là.
Le ciel meurt, vert et rose, en l'eau qui le reflète. Comme une vapeur chaude autour d'un encensoir, dans la suavité douloureuse du soir, sous les bois dépouillés dort l'ombre violette.
Il me semble que lorsqu'on lit ce poème ou qu'on l'entend, on est quand même frappé par le mélange justement de suavité, mais aussi de grand mystère qui entoure cette nuit, qui entoure ces paysages et qui entoure ce qu'elle est, elle. On ne sait pas grand-chose d'elle et pourtant il y a une part de mystère et aussi presque de peur. On n'a pas très envie de s'y frotter. Et en même temps, on l'admire beaucoup. Moi, c'est ça que je ressens quand j'entends ce poème. C'est-à-dire que je vois la verve presque classique de cette première partie de poème qui raconte un lieu, un endroit, une certaine heure du jour ou de la nuit. Et je vois comment on va vers un mystère, vers un... une grande question sans réponse, vers un autre monde aussi, vers des couleurs qui ne sont plus vraiment des couleurs parce qu'il y a beaucoup de questions d'argent, de gris et de noir. Et qui, je trouve, plonge la personne qui entend dans une poésie qui est presque une poésie de Lovecraft, quoi. Qui viendrait emprunter à d'autres genres leur force. Mais sans doute que cela tient à tous ces métiers qu'elle a exercés. Et cela tient aussi à cette mode de l'occultisme qu'il y a eu à ce moment-là. Mais je suis assez épatée qu'en quelques mots, on puisse passer comme ça d'un monde à un autre.
L'heure invisible épand la cendre de son urne. Seul un signe éclatant dans le soir mi-fermé d'un sillage d'argent déchire l'eau nocturne.
Ah, le rapport mystique à la nature... est un mouvement et un processus assez difficile à décrire, qui n'a jamais été en un lieu dépouillé d'âme humaine, tout en ayant le sentiment dans ce lieu-là que quelque chose de plus grand que soi-même est à l'œuvre. Franchement, si quelqu'un me dit « moi, ça ne m'est jamais arrivé », je n'y crois pas. Voilà. Mais est-ce cela qu'on appelle mysticisme ? Peut-être. Après, le raconter, comment le raconter, comment l'écrire, et quels mots utiliser pour, encore une fois, ne pas avoir le sentiment de passer pour le fou du village. Et pourquoi avoir peur de passer pour le fou du village ? Peut-être que c'est ça la vraie question. Peut-être que accepter de raconter le rapport mystique qu'on entretient avec un paysage, c'est aussi accepter de passer pour le fou du village.